Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Laurent Claudel semble avoir été piqué par le travel bug il y a une vingtaine d'années. Depuis, il a fait bien du chemin et des rencontres. Le virus du voyage ne l'a jamais quitté, et Laurent continue de partir régulièrement sur les sentiers du monde, avec comme axe de voyage, sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, Laurent s'est mis à jour et fait partie d'une communauté de blogueurs voyageurs. Le web est pour lui un moyen de valoriser ses images et partager ses récits d'aventures ou expériences de vie à l'étranger. Je l'ai rencontré à son retour de Chine autour d'un riz cantonais au bas de son immeuble à Paris. Nous avons échangé sur ses expériences et sa vision du voyage. Bonjour Laurent, pour commencer notre rencontre, parle-moi de ton blog One Chai.
J'ai démarré ça avant tout pour faire quelque chose de mes photos en fait. Je prends beaucoup de temps à prendre des photos en voyage, c'est quelque chose qui me botte pas mal. Sauf que j'en faisais pas grand chose, elle prenait la poussière sur mon disque dur quand je rentrais à la maison. Enfin, elle prenait il y a quelques années la poussière dans mes boîtes des diapositives avant de passer au numérique. Et donc voilà, je me suis dit, je vais faire des galeries photos, quoi. Et petit à petit, quand le projet a commencé à mûrir un peu, à avancer, je me suis dit, juste des galeries photos, c'est un peu... Enfin, il faudrait quelque chose autour, quoi. Donc ça m'a donné envie de faire un blog et d'écrire des billets sur mes voyages. Alors l'avantage que j'ai par rapport à certains, c'est que j'ai démarré le blog il y a 2 ans, mais j'ai commencé à voyager il y a 15 ans, donc j'ai un peu de stock d'histoire à raconter. Et quand on démarre un blog, le gros dilemme, c'est de trouver un nom. Et vu qu'il y en a tellement, on peut mettre voyage dedans, on peut mettre tour du monde. Enfin, j'ai jamais fait le tour du monde, donc je peux pas mettre tour du monde. Je me suis rappelé un des premiers voyages que j'ai fait, enfin, en dehors des pays occidentaux, c'était en Inde. Ce fut un choc assez fort. Enfin, c'est devenu un pays qui me fascine, mais la première fois, c'est assez rude quand même. Et ça m'avait marqué en arrivant à mon hôtel à Delhi au milieu de la nuit et au petit matin, il y a le vendeur de thé, le chaiwala, qui défilait dans les couloirs. Et chai, 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 chai. Alors, voilà.
Très bien, un voyage en Inde il y a quelques années déjà. Tu parles de blog. Explique-moi un petit peu ce que c'est que cette famille de blogueurs, parce que c'est quand même relativement nouveau ce phénomène, les blogs de voyage.
Ça a démarré doucement. En France, en tout cas, il a commencé à y en avoir il y a 5-6 ans, peut-être, je dirais. Alors, il y a un peu 3 catégories, je dirais, dans les blogs. Il y a beaucoup de gens maintenant qui font un blog quand ils vont partir en voyage un an autour du monde. Enfin, donc, typiquement, c'est des gens. Enfin, moi, quand je suis parti un an en voyage, j'envoyais des mails. Maintenant, c'est un peu plus sympa. On a un blog sur lequel on écrit ce qu'on mettait dans les mails et on met des photos avec. Et comme ça. Mais c'est la cible numéro 1 en général de ces gens-là, c'est la famille et les amis. Ça va pas forcément beaucoup plus que ça parce que c'est difficile de se faire connaître en fait. Forcément, c'est beaucoup de boulot et quand on est en voyage, on a autre chose à faire, on profite de son voyage normalement.
Bah, ou pas, t'as aussi ceux qui sont dans cette dynamique de créer une vraie communauté autour du voyage et puis d'être lu.
Il y en a qui arrivent tout à fait. Enfin, je suis pas mal de blogs de voyage et j'en ai connu qui sont rentrés maintenant mais qui sont partis un an et demi en voyage et qui... Mais ça leur prenait beaucoup de temps pendant leur voyage. Moi, j'aurais pas été prêt pendant mon voyage d'une année à consacrer ce temps-là à développer une communauté, à se faire connaître et à créer un blog. Après, les gens sont plus ou moins doués, plus ou moins talentueux et plus ou moins rapides pour faire leur travail. Enfin, moi, je suis assez perfectionniste et ça me prend quand même pas mal de temps, écrire un billet, être satisfait du billet, choisir les photos que je mets avec, etc. Je fais pas ça toc en une demi-heure, quoi. C'est un processus assez long. Donc, et d'ailleurs, maintenant, quand je pars, vu que je ne voyage pas à plein temps, mais durant mes vacances, quand je voyage, j'écris rien sur le blog. Je mets des photos sur Facebook et quand je rentre, je continue à voyager chez moi en écrivant. Voilà. Alors pour en venir au blog, après, il y a une autre catégorie de ceux qui ont démarré il y a un peu plus longtemps et dont c'est devenu le métier, en fait, qui ont professionnalisé leur blog. Donc en général, ça se fait en partenariat avec des offices du tourisme pour promouvoir des destinations. Ce qui se faisait plus il y a quelques années, c'était... ce qu'on appelle les billets sponsorisés, où une marque suggère d'écrire un billet sur quelque chose normalement lié au voyage, on va dire, pour améliorer son référencement Google, mais c'est devenu un secteur qui marche plus trop. Google fait un peu la chasse à ça. Enfin, ce genre de choses, on va dire, c'est la troisième catégorie de gens dont je fais partie, sauf que je crie pratiquement aucun billet sponsorisé, mais qui ont un boulot et puis qui ont un blog à côté et qui vont ou pas essayer d'en tirer quelques revenus en plus, mais qui font ça avant tout. Enfin, la plupart font ça par passion, parce que vouloir démarrer un blog pour... Il y en a un pour gagner plein de sous rapidement, en fait. Les gens laissent tomber rapidement parce que il y a quelques escrocs qui font leur pub en vendant des formations ou en travaillant 4 heures par jour sur la plage avec son laptop sous les genoux en Thaïlande. On arrive à gagner sa vie, mais on a peut-être qui arrive, hein, mais globalement, c'est pas vrai. C'est beaucoup de travail, comme tous les domaines. Enfin, il y a des chanceux et des gens tellement doués ou qui ont un coup de bol, enfin, les deux ensemble, qui arrivent à s'en sortir en travaillant peu, mais globalement, pour faire sa place, c'est beaucoup de travail.
Comment tu définirais OneChai? Quelle est ta ligne éditoriale? Qu'est-ce que tu essaies? Comment est-ce que tu essaies de te différencier? Ou quelle est ta spécificité sur le travail et sur les posts que tu vas mettre en ligne?
Alors, j'essaye de me différencier. Enfin, ma différenciation et ma ligne éditoriale m'est apparue après que le blog ait démarré. Quand j'ai démarré, il n'y en avait pas, en fait. Enfin, j'avais pas de plan. J'avais pas de business plan. Et je me suis rendu compte au fil des retours que j'avais des lecteurs, en fait, que j'aime bien voyager dans des pays, on va dire, en dehors des sentiers battus. Enfin, l'expression est un peu galvaudée, ne veut plus rien dire maintenant parce que l'employé a tort et à travers. Mais j'aime bien aller dans des endroits où tout le monde ne va pas forcément. Enfin, je vais aussi dans des endroits où tout le monde va, parce que les touristes ne sont pas non plus complètement idiots, ils ont quand même tendance à aller dans des endroits qui sont jolis. Mais ça, en permanence, ça me fatigue, parce que on a une relation avec les locaux qui est complètement bizarre. Enfin, on n'a plus de relation avec les locaux, en fait. On a une relation avec les rabatteurs qui nous tombent dessus en permanence. Donc j'aime bien chercher un peu, regarder ma map monde et dire, je vais aller en voyage là, Et du coup, pour le blog, c'est assez sympa, parce que ça me permet d'écrire des billets. Comme l'automne dernier, j'étais au Tadjikistan. Bon, on trouve pas forcément énormément d'articles de billets sur le Tadjikistan sur les blogs de voyage, alors que sur la Thaïlande, on en trouve beaucoup. Donc c'est un peu ma ligne éditoriale, hors des sentiers battus.
Et c'est comme ça que tu vas choisir aussi les destinations dans lesquelles tu vas te rendre. Tu vas essayer de trouver justement des endroits sur la carte du monde où moins de gens vont. Tu me parles de la Thaïlande, c'est sûr que la Thaïlande, on l'a faite dans tous les sens. On en parle beaucoup, le Tadjikistan un peu moins. Donc est-ce que c'est aussi ça finalement qui va t'amener à te décider sur les nouvelles destinations dans lesquelles tu vas te rendre?
Tu veux dire pour tenir la ligne éditoriale du blog?
Non, pour tes voyages.
Oui, pour mes voyages, clairement, je cherche quelque chose qui va être en dehors des sentiers battus, mais qui correspond aussi à un type de voyage qui m'intéresse, quoi. Enfin, j'aime bien la montagne en voyage. Je vais pas non plus aller dans le trou du cul du monde où il y a rien à voir pour juste dire je suis allé là, personne n'y va. Enfin, il y a des endroits où personne n'y va, il y a des bonnes raisons, parce que c'est peut-être pas forcément très intéressant. Enfin, on peut en creusant, en prenant son temps, j'imagine, trouver un intérêt partout. Mais euh, mais bon, faut quand même qu'il y ait un minimum de choses qui m'intéressent. Donc, je jongle entre les deux. Enfin, j'ai pas non plus envie de tomber dans le snobisme un peu idiot à vouloir absolument sous couvert que c'est plus exotique et que personne n'y va me distinguer, parce qu'il y a des choses. Je suis allé au Maroc il y a deux ou trois ans, j'avais jamais mis les pieds au Maroc et je me suis senti un peu idiot parce que le Maroc c'est pas loin, et voilà. Et quelque part, oui, par snobisme, du coup on va au Maroc et on rencontre des Australiens au Maroc, voilà, parce qu'on n'est pas le seul à penser que c'est mieux, que c'est loin.
Manehe baikat bi halam demon na baine waye bum gatok na mo he baikat bi halam demon na baine waye bum gatok na mo. La nexe talala say loxo yay docteur bi patch ki fois kan bi dika dale singi tum rew ba ci miskin ya zumme ko di dan sa dole andak nak bi di ligey sa ñakadi tour ngay bay di dukat billahi ya am jom kun jara ma bay kat.
Laurent, donc là je suis avec toi, tu me parles de ton blog One Chai, du voyage. Le blog, c'est vrai que c'est quelque chose de relativement nouveau. Tu me dis que ça a apparu il y a quelques années, mais tu voyages depuis bien plus longtemps que ça. Donc j'aimerais que tu me parles de ce qu'est le voyage pour toi, hein, ce qui t'a poussé peut-être à l'origine à quitter ici la France pour aller voir ce qui se passait ailleurs. On va revenir à Laurent il y a quelques années. Et ouais, ce qui a fait que tu te décides à franchir le pas.
Alors, contrairement à beaucoup de monde, on entend souvent les gens qui, quand ils partent en voyage, pour un grand voyage d'une année, c'est un rêve d'enfance. Moi, non, j'ai jamais rêvé de ça quand j'étais gamin. J'ai pas grandi dans un milieu pour qui le voyage est quelque chose d'important. Et ça m'est tombé dessus complètement par hasard. Et même, clairement, ça m'aurait intimidé. C'est quelque chose. Je me souviens quand j'étais étudiant, il y avait pas mal d'échanges, Erasmus, etc. et compagnie. Moi, j'étais. J'étais un peu distant vis-à-vis de ça, ça me faisait un peu peur, clairement. J'étais pas quelqu'un de très hardi. Et ça a été complètement par hasard, en fait, quand j'ai commencé à travailler, mon premier boulot était à Dublin, en Irlande. Et à peine arrivé, je travaillais sur un projet dont la moitié du projet était fait en Inde, à Bangalore. Et il y avait des soucis, ça fonctionnait pas. Donc, ça faisait un mois que j'étais là, le patron, c'est une toute petite boîte, le patron me dit... Ça te pose problème, Laurent, si le mois prochain tu pars deux semaines en Inde avec un de tes collègues? Moi je dis non, pas de problème. Et voilà, l'Inde, je connaissais rien. Enfin, pour moi, l'Inde c'était un pays pauvre, c'était Mère Teresa, voilà, Calcutta. Et ça a été un choc assez violent. Mon collègue faisait pas plus le malin que moi non plus. Enfin, je nous envoie tous les deux sortir de l'aéroport de Delhi à 2h du matin. Bon, quand on arrive maintenant, l'aéroport de Delhi, c'est un peu plus aseptisé. Il y a un joli terminal. À l'époque, c'était pas le cas. C'était le chaos. Enfin, pour un occidental, en tout cas, c'était le chaos. Et voilà, donc je suis resté deux semaines. J'ai rien vu de l'Inde parce qu'on avait beaucoup de boulot. Mais clairement, je suis tombé de haut en me disant, mais enfin, il se passe un truc ici. J'en imaginais 2% de ce qui se passe, pas plus. Faut que je revienne voir, faut que je vienne voir ce qui se passe. Ça m'a intrigué, ça m'a intimidé, ça m'a fait peur, mais pas suffisamment pour ne pas vouloir y retourner. Cette impression de perdre pied, d'être déstabilisé complètement ma séduite, en fait. On apprend à se connaître d'une autre manière par rapport à un voyage en France ou en Europe où on voit des choses très belles, mais on perd moins pied. Et bon, j'avais des collègues qui avaient pas mal voyagé aussi, donc de fil en aiguille, je me suis dit, ben tiens, quand je quitterai mon boulot en Irlande, enfin je comptais pas rester, voilà, j'étais parti en Irlande pour quelques années, et quand je quitterai mon boulot, avant de rechercher un autre boulot en France, je vais partir pour un grand voyage. Donc un grand voyage pour moi, c'était d'abord 3 mois, et puis on regarde la carte, puis je me dis, ben non, 3 mois. Ça va faire court pour visiter la Terre, 3 mois. Et de fil en aiguille, je me dis, bon, bah voilà, je vais faire le truc standard, entre guillemets, je vais partir une année. J'étais prêt à faire également le truc standard, acheter un billet d'avion tour du monde. Et bon, je sais pas trop pourquoi, en lisant des bouquins, j'étais plus attiré par faire un grand itinéraire terrestre, sans prendre l'avion. Et je me suis retrouvé sur quelque chose qui se faisait assez couramment à l'époque, c'est-à-dire aller depuis la France jusqu'à l'Inde et l'Asie du Sud-Est par voie terrestre. Donc à travers l'Europe de l'Est, la Turquie, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, Bangladesh, Birmanie et Laos, Cambodge. Puis, enfin Thaïlande, mais j'ai pas visité, j'avais pas le temps.
Donc un an sur les routes, voilà. Par voie terrestre, en partant de France jusqu'en Asie du Sud-Est.
Voilà. Tout à fait. J'ai juste dû... tricher entre guillemets pour rentrer et sortir de Birmanie. Techniquement, j'ai fait les pays voisins, mais la Birmanie à l'époque, les frontières terrestres n'étaient pas ouvertes aux étrangers, donc j'ai pris l'avion.
Mais tu as pu obtenir déjà un visa à cette époque-là, mais c'était 2 semaines, je crois, maximum.
Non, un mois, il me semble. Enfin, la Birmanie avait fait l'année du tourisme en 97, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est assez étrange en fait à l'époque, parce qu'il y avait un début d'infrastructure touristique, mais les touristes, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait quand même pas mal de Français, curieusement, les agences de... Enfin, en gros, en voyage organisé plutôt. Mais et quand on est arrivé à Bagan ou au Lac Inlay, en sortant du bus, les tenanciers d'hôtels... Alors bon, on trouve ça ailleurs dans le monde, mais ils nous tombaient tous dessus pour « viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi ». Et j'ai souvenir, enfin des amis m'avaient rejoint pour la partie en Birmanie. Et les hôtels moyens de gamme venaient et baissaient le prix de leur chambre au prix des hôtels bas de gamme, parce que les hôtels étaient vides en fait, il n'y avait personne. Il y a clairement le nombre d'hôtels qui avaient été construits dépassait de loin. Mais bon, je suis content d'être allé à l'époque, parce que quand je vois, enfin la Birmanie c'est toujours aussi beau, Bagan c'est toujours aussi beau, mais c'est vrai, enfin pour en avoir discuté avec des personnes qui sont allées plus récemment, quand on voit maintenant les gens qui vont en haut des pagodes au coucher du soleil sur Bagan, bah faut un peu jouer des coudes pour prendre des photos. Moi on était 10 quoi.
Laurent, toi tu as passé donc un an sur les routes, hein, donc en 2000-2001. À l'époque, pas de blog. Tu as vu aussi l'évolution des connexions d'Internet. Enfin, on ne voyageait pas pareil en 2000 qu'aujourd'hui.
Non, pas vraiment. C'est en 2000, disons là, bon, quand même, l'itinéraire que j'ai fait, pratiquement tous les pays, j'ai pu envoyer des mails. Les seuls endroits où on ne pouvait pas envoyer des mails, c'est dans les régions montagneuses, le nord Pakistan, tout ça, etc. Il n'y avait pas de connexion. Mais
sinon, c'était des cybercafés.
Oui, c'était des cybercafés, c'est ça. Enfin, qui disparaissent maintenant, parce que tout le monde a son smartphone, mais enfin, j'ai souvenir par exemple qu'à Delhi, dans le ghetto des backpackers, à Paragange, ça commençait à bien exploser le nombre de cybercafés partout. Donc, enfin, j'avais trouvé ça assez sympa quand même, parce que enfin, d'une part, moi j'avais pas beaucoup d'argent pour voyager, hein, pour une année, donc c'était pas cher de donner des nouvelles par internet, alors que téléphoner ça coûte cher. Et puis même, enfin j'avais pas envie de téléphoner. Enfin j'ai jamais téléphoné à ma famille durant tout le voyage, parce que voilà, enfin qu'est-ce que tu dis au téléphone en 5 minutes, c'est voilà. Donc c'était le début où on pouvait envoyer des mails et communiquer facilement. Bon, il y avait pas le wifi dans les hôtels, c'est sûr.
Donc le voyage maintenant, ça fait... pourrait très bien prendre des vacances pendant tes vacances, tes congés payés, rester en vacances et peut-être rester chez toi, lire un bouquin, regarder la télé, parce que voyager finalement c'est pas toujours de tout repos.
Non, c'est pas de tout repos, enfin ça dépend à quel point de vue on va dire. Enfin, vu que je fais un boulot où faut plutôt réfléchir et s'activer assez peu physiquement à part les doigts sur mon clavier. Pendant le voyage, je repose quand même bien mon cerveau, mais c'est vrai que je repose pas mes jambes ni mes os. C'est devenu une sorte de drogue, c'est peut-être un peu con de dire ça, mais oui, c'est quelque chose. Enfin, je suis à peine rentré d'un voyage que je réfléchis où est-ce que je vais partir la prochaine fois. Ce besoin de prendre une claque dans la figure, en fait, à chaque fois. Enfin, les voyages qui vont me plaire le plus, c'est pas les voyages qui sont faciles. Les voyages faciles, ça m'ennuie, en fait. Moi, j'aime bien être un peu rudoyé en voyage. Les hôtels confortables, c'est pas mon truc. Je m'y sens même mal à l'aise, en fait, parce que je me sens hors cadre avec mes fringues pas toujours toutes fraîches et j'ai peur de salir. Et voilà, moi, j'aime bien un truc bien simple, de base. Et me sentir déstabilisé, alors soit par des paysages à couper le souffle, soit par j'adore les routes de montagne où, bon, après une journée de jeep, on a les os en vrac, mais voilà, ça, c'est des choses qui marquent. Alors, des fois, le soir, on n'en peut plus, on est fatigué, on dit, oh, j'en ai marre, c'est dur. Mais ça laisse des souvenirs impérissables. On s'en rappelle 10 fois plus 5 ans après que si on a pris un bus climatisé pour arriver d'un site qui est peut-être tout aussi joli. Mais j'imagine, c'est comme les gens qui font de la haute montagne. Si on prend le téléphérique pour aller à l'Aiguille du Midi, la vue est splendide. Mais si on va à un sommet à côté avec ses crampons et ses piolets, le souvenir sera pas le même, donc c'est pareil.
Si tu devais définir le voyage, qu'est-ce que c'est que voyager ?
Le voyage, pour moi, c'est trébucher. Tiens, voilà, c'est une expression que j'avais sortie il y a quelques temps. Pour en revenir justement, voilà, où j'aime être déstabilisé, J'ai envie de marcher quelque part sur un trottoir, mais le trottoir est en très mauvais état et je trébuche sur plein de trucs qui vont être ce que je vais découvrir. Alors essentiellement dans la manière de vivre des gens, leur comportement, leur environnement, pas forcément la nourriture, je sais pas forcément. Enfin, il y a des pays que j'adore. Enfin, j'adore par exemple l'Inde pour la nourriture. J'adorais la Chine aussi pour la nourriture. Alors qu'il y a des pays où, enfin, c'est très ennuyeux, voire des fois c'est un peu dur, même si je m'adapte à peu près. Mais c'est pas mon créneau, on va dire. Et c'est pas non plus ma ligne éditoriale. Je ne prends pas mes assiettes en photo.
C'est vrai, la photo, tiens, c'est un mot, hein. tu me tends la perche. Apparemment, la photo a aussi une place importante dans ton voyage.
Oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose, clairement, qui me fait voir des choses que je ne verrais pas si je prenais pas de photo. C'est une des raisons aussi qui fait que j'aime voyager seul, parce que j'adore prendre des photos, j'y consacre un temps assez important. Mais je suis pas, on va dire, forcément un photographe très spontané. Donc ça me prend beaucoup de temps de réfléchir à ce que je veux faire et attendre à droite à gauche, me poser, qu'est la bonne personne qui passe au bon endroit. Et si je suis pas tout seul et qu'il y a du monde avec moi, je vais les saouler. Ils vont pas attendre parce que moi je veux prendre une photo. Donc j'arrive plus à prendre de photos, ça ressemble plus à rien. Mais du coup, le fait de chercher toujours, on bouge beaucoup plus la tête, on regarde à droite à gauche, on cherche là-bas, on cherche un angle pour la photo qui sort de la carte postale qu'on voit partout, parce qu'on aimerait bien ramener quand même quelque chose, peut-être pas un peu mieux que ça, mais un peu, enfin, plus original, qui change en tout cas. Donc ça permet de voir des choses qu'on voit pas autrement en voyageant juste sans prendre de photos. Yeah.
hiç burada sarılı kur kur. Mutlu için balının arışlar hiç orukta sarılı kur kur. Para balının arışlar hiç korkun arışlar hiç arışlar hiç arışlar hiç arışlar hiç.
Jamais voyager en couple parce que j'ai peu vécu en couple. Donc c'est bon, c'est quelque chose qui m'amuse toujours un peu parce qu'on lit ça beaucoup sur les blogs de voyage. Ce sont deux sujets très à la mode. C'est voyager seul en vantant que c'est mieux de voyager seul et puis il va y avoir l'autre ligne voyager en couple parce que c'est mieux de voyager en couple. Bon, moi ça m'a toujours beaucoup fait rire parce que globalement, concrètement, si on vit en couple, on a quand même plutôt tendance à voyager en couple. Alors bon, on peut voyager seul de temps en temps si on vit en couple, mais en permanence, voyager seul si on vit en couple, c'est un peu étrange. Et à contrario, et pourquoi si on vit pas en couple, on a du mal à voyager en couple. Alors après, on peut voyager avec des amis. Là, c'est pas évident quand même.
Ce qui est un couple aussi, finalement, un couple, c'est deux personnes. Donc, tu peux voyager avec ton copain, et puis enfin, avec un copain, un ami, tu seras deux, tu seras un couple.
Effectivement. J'ai voyagé. Alors, bon, globalement, j'ai voyagé seul, essentiellement parce que j'avais pas forcément de monde autour de moi qui était prêt à voyager. Voyager avec du monde sur une courte période, ça me pose pas de problème. Je me serais jamais engagé, par exemple, pour partir pour mon voyage d'une année avec une personne. Je suis pas capable de promettre quoi que ce soit parce que, enfin, quelque part, c'est une promesse, partir avec quelqu'un. On est censé revenir avec lui. Donc, ça me semble, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur. Enfin, il y a beaucoup de gens, ça leur fait peur de partir seul. Moi, j'ai peut-être un côté un peu solitaire aussi. J'ai pas de frères et sœurs, donc je suis habitué à être autosuffisant. mais c'est quelque chose qui me convient bien. Enfin, j'ai constaté après en voyage, parce que bon, voilà, j'ai découvert, j'ai beaucoup appris, comme tout le monde. On n'est pas né avec le plugin voyage. Enfin, sauf si on a voyagé avec ses parents, mais c'était pas mon cas. J'ai découvert d'une part que quand on voyage seul, ben en fait, on n'est pas souvent seul. Ça dépend des pays, mais il y a des moments, même si on est un peu solitaire, on en rêverait en fait d'être seul. On se retrouve en permanence dans des auberges remplies de gens qui font la même chose que nous. Ce qui est pas mal parce que ça démystifie aussi un peu le truc. Au début, on peut rattraper un peu la grossesse en se disant waouh, je vais partir pour un voyage, l'aventure. Ce que je dis maintenant, c'est que c'est une aventure personnelle incroyable, mais personnelle. C'est pas une aventure, autrement, c'est quelque chose d'assez simple et banal. Mais alors, pour en revenir à voyager seul, en fait, ce que j'adore en voyageant seul, autrement, c'est que ça, on fait beaucoup plus de rencontres.
Donc, on fait plus facilement l'effort aussi d'aller vers l'autre quand on voyage seul. On est plus à l'éveil, à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. On a cette envie de partager avec les locaux. Alors que quand on est en groupe, ou en couple, c'est vrai qu'on a ce besoin qui est moins présent, moins fort.
Oui, tout à fait. Bah, disons, si on est deux à discuter et que quelqu'un débarque, on se dit, mais qu'est-ce qui vient? Enfin, laisse-moi tranquille. Alors que si on est tout seul, bon, on peut penser ça aussi si on est tout seul. Enfin, si c'est le 20e de la journée, on va peut-être penser ça parce qu'on a un peu de souffler. Mais autrement, c'est plutôt le bienvenu, en général. Enfin, ça dépend si c'est un marchand de tapis ou quelqu'un qui veut juste parler.
Merci Laurent, merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.